États-Unis, Amérique latine, anatomie d'un impérialisme.
À l'heure où Donald Trump fait arrêter le président vénézuélien Nicolas Maduro, lorgne sur son pétrole et menace la Colombie ou Cuba, retour sur la longue histoire de l'impérialisme états-unien sur son continent. Coup d'État, sanctions, ingérences, comment Washington a façonné l'Amérique latine et comment les pays latino-américains ont-ils résisté ?
Thomas Negaroff.
6 grandes dates, 6 épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec l'historien Olivier Compagnon.
Épisode 2, 1904, l'impérialisme à contre-cœur.
L'injustice chronique ou l'impuissance qui résulte en un relâchement général des règles de la société civilisée peut exiger en fin de compte, en Amérique ou ailleurs, l'intervention d'une nation civilisée et dans l'hémisphère occidental, l'adhésion des États-Unis à la doctrine Monroe peut forcer le pays, à contre-cœur cependant, dans des cas flagrants d'injustice et d'impuissance, à exercer un pouvoir de police internationale. Theodore Roosevelt, message adressé au Congrès des États-Unis le 6 décembre 1904. On avance dans notre conversation avec Olivier Compagnon et je trouve que c'est très intéressant cette référence à la doctrine Monroe du premier épisode et j'adore la formule quasiment l'impérialisme à contre-cœur. Alors, on est en 1904. Pourquoi prononce-t-il ce discours en 1904 qui dit, à la différence de la doctrine Monroe de 1823, que désormais, ils peuvent agir militairement. Un pouvoir de police internationale, c'est l'armée.
Voilà, un pouvoir de police, autrement dit, Washington s'arroge le droit d'intervenir, presque dans toutes les circonstances possibles et imaginables, dans la vie politique des États latino-américains. Plus précisément, en vérité, dans la vie politique des États centra-américains et caribéens, et du Mexique, puisqu'on verra que l'Amérique du Sud, au fond, est quand même plus éloignée dans cette vision du continent.
À ce moment-là.
Alors, c'est évidemment un document très important, d'abord parce que toutes les mésinterprétations...
Je fais juste une note de bas de page. C'est ce qu'on appelle le corollaire Roosevelt.
C'est ce qu'on appelle le corollaire Roosevelt à la doctrine Monroe. C'est encore un discours sur l'état de l'Union prononcé à la fin de l'année 1904. Et c'est sur la base de ce texte que toutes les mésinterprétations de la doctrine Monroe de 1823 ont été faites, en réalité. Alors ce texte, il formalise donc, je dirais, l'impérialisme états-unien ou l'expansionnisme états-unien vers l'Amérique latine, après des évolutions qui en fait remonte à une quinzaine d'années. D'abord, les problèmes, je dirais, qui étaient structurants de la vie politique états-unienne au 19e siècle et qu'on a évoqué dans le premier épisode sont réglés.
Oui. La guerre civile est achevée.
La dernière grande bataille indienne, c'est Wounded Knee. Je parle à un spécialiste des États-Unis, c'est Wounded Knee en 1890. La guerre de sécession, disons, a réglé le problème de l'esclavage dans une certaine mesure. La conquête de l'Ouest est achevée et les États-Unis sont devenus ou sont en passe de devenir la première puissance. Industrielle. Donc là, effectivement, la destinée manifeste, c'est-à-dire cette mission civilisationnelle dont seraient naturellement porteurs les États-Unis. C'est un texte d'un journaliste, on le sait, new-yorkais, John O'Sullivan, en 1845, qui au départ, effectivement, s'appliquait plutôt à la mission civilisationnelle qu'il fallait appliquer vers l'ouest des États-Unis, mais qui en fait, à la fin du 19e, devient également une mission civilisationnelle globale.
Et vers le sud en particulier.
Et vers le sud en particulier. Bon, il y a toutes ces évolutions-là. Et donc, en fait, le basculement se fait par étapes à partir du tournant des années 1880 et 90. La première étape, c'est la convocation à Washington du premier congrès panaméricain par les États-Unis, qui est très intéressante parce que, d'une part, tous les délégués latino-américains qui vont s'y rendre vont être baladés sur le territoire états-unien, qu'on va leur montrer comme le nouveau lieu de toutes les modernités. La modernité, ce n'est plus l'Europe, ce n'est plus Paris, c'est nous qui l'incarnons, donc une gigantesque opération de séduction. Et puis ensuite, par toute une série de propositions, mettons en place des règlements pour que les différends qui peuvent nous opposer soient réglés pacifiquement. Et puis éventuellement, pensons même à établir une monnaie unique sur le continent américain.
Mais vous le dites avec une forme d'ironie dans la voix, ça veut dire que derrière ces grands discours, il y a un autre discours, peut-être plus mercantile ou peut-être plus géopolitique qu'on ne dit pas.
Le premier congrès panaméricain, c'est la première expression de la vocation expansionniste vers l'Amérique latine, mais je dirais faite de manière soft, en quelque sorte.
Mais sincère ?
Ah bah la volonté d'expansion et de conquérir des marchés, etc. Elle est là sans aucun doute. Et le besoin très concret de conquérir des marchés, d'accéder à des matières premières, il est là. Mais disons que la proposition, c'est une proposition qui est faite de manière pacifique, avec cette idée, effectivement, par exemple, d'une grande zone économique. Alors c'est pas formulé comme ce sera formulé dans les années 1990, on y reviendra plus tard, mais c'est un petit peu cette même idée qui est là. Et ce congrès, en fait, il suscite des réactions extrêmement mitigées chez les représentants latino-américains qui lisent rapidement la volonté expansionniste. Et c'est là d'ailleurs que l'une des premières grandes figures du sentiment anti-Yankee, à savoir le Cubain José Martí, écrit en 1891 un livre qui fera date, qui s'appelle Nuestra América, donc Notre Amérique, sous-entendu Notre Amérique à nous, latino-américains, ce n'est pas la leur, et qui pointe pour la première fois, le danger que représente cette vocation expansionniste de Washington à destination de l'Amérique latine.
C'est intéressant parce que les gens qui nous écoutent depuis le premier épisode ont entendu des noms comme Bolivar, Miranda, Marty, c'est des noms qui sont cités tout le temps et toujours, par exemple, par Hugo Chavez il y a quelques années encore, ou par Maduro encore quand il était en liberté. C'est des figures essentielles de l'itinéraire, de l'histoire, du destin sud-américain.
Absolument, et des relations panaméricaines.
Oui.
Alors ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est évidemment la guerre hispano-américaine de 1898. Alors ça, on peut le formuler de plein de manières différentes. La libération, je mets des guillemets peu radiophoniques, la libération de Cuba par les États-Unis, c'est-à-dire, effectivement, donc, une intervention militaire, une guerre qui se passe extrêmement rapidement, et Cuba qui devient indépendant grâce à l'intervention états-unienne. C'était Cuba et Porto Rico et les Philippines. Bon, le traité de Paris en 1898, l'Espagne perd les derniers restes de l'empire qu'elle avait bâti au tournant des 15e et 16e siècles.
Et la justification est intéressante de la part des États-Unis pour l'intervention militaire, c'est en gros la souveraineté, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, on se drape dans l'idée d'une guerre juste.
Oui, alors il y a cette idée évidemment de, entre guillemets, démocratisation, mais il y a aussi l'idée qu'il y aurait eu une agression contre un navire...
Un peu bidon,
contre un navire états-unien en rade de la Havane.
Bon, et avec le rôle d'ailleurs de la presse populaire, qui a besoin, qui sait que la guerre fait vendre du papier.
Absolument.
Le fameux William Randolph Hearst.
Voilà.
Les cinéphiles connaissent sous le nom de Citizen Kane.
Exactement. Alors, ça, c'est un épisode important parce que très peu de temps après, donc on est en 1898, en 1901, est voté au Congrès états-unien le fameux amendement Platt, en gros, qui autorise les États-Unis à intervenir dans la vie politique cubaine si, à un moment donné, elle prenait un tour trop défavorable aux intérêts états-uniens. Amendement Platt qui sera intégré, 2 ans plus tard, dans la nouvelle constitution cubaine. Pour le dire autrement,
c'est une vassalisation.
Cuba devient un protectorat. Alors, d'un point de vue purement juridique, c'est pas un protectorat comme la Tunisie était un protectorat de la France, mais enfin, très concrètement, ça devient un protectorat et ça le restera jusqu'à la révolution castriste du 1er janvier 1959.
Et c'est un peu ce qu'il y a dans l'esprit des États-Unis, peut-être aujourd'hui au Venezuela. En gros, faites ce que vous voulez, mais attention, il faut que ça corresponde à nos intérêts. C'est une manière d'y aller sans y aller. C'est assez malin pour eux.
J'avais pas pensé au parallèle avec la situation actuelle, mais effectivement, c'est assez intéressant. Troisième séquence, alors très importante dans l'imaginaire latino-américain, c'est la sécession panaméenne.
Ah oui.
Y a évidemment ce vieux projet qui n'est pas un projet états-unien à l'origine, ou plutôt qui est un projet états-unien, mais qui est aussi un projet européen et notamment français, de construire un canal interocéanique, le fameux canal de Panama. On ne revient pas sur le scandale de Panama en France, etc. Bon, toujours est-il qu'à un moment donné, les États-Unis décident qu'il y a un enjeu majeur en termes de circulation
pour eux,
des marchandises, effectivement, et puis pour relier les deux faces maritimes des États-Unis à creuser ce canal. Et ils fomentent donc une sécession panaméenne qui, concrètement, est actée en 1903. Ça va être un moment...
Il faut juste expliquer que le Panama faisait partie de la Colombie.
C'était la province la plus septentrionale de la Colombie, telle qu'elle était devenue indépendante en 1830.
Et comme la Colombie ne voulait pas percer pour les États-Unis, percer cet isthme, eh bien, on va fomenter l'indépendance d'un nouveau pays, le Panama, qui, comme par hasard, lui est très favorable.
Alors, un moment très important dans la cristallisation du sentiment anti-Yankee en Amérique latine également. Parce au fond, cette mutilation du territoire national colombien, elle est perçue, si vous voulez, à peu près comme avait pu l'être la perte de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine en France en 1870-71.
Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, la Colombie a ce truc-là encore avec le Panama?
Alors, c'est moins présent évident aujourd'hui, ouais. D'autant que la Colombie a rencontré d'autres difficultés ouais. politiques depuis dans la deuxième moitié du XXe siècle, on va dire. Mais à l'époque, il y a une floraison d'écrits, de pamphlets, etc., qui dénoncent cette mutilation avec toutes les métaphores, justement, physiques, corporelles, etc. Et vraiment une cristallisation de l'anti-américanisme. Alors, moi, il y a un auteur que j'aime beaucoup, qui est un intellectuel argentin, qui s'appelle Manuel Ugarte, ouais. et qui est une des grandes figures. Son premier article, un de ses premiers articles connus, 1901, ça s'appelle « Le péril Yankee ». Et après, il va, jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à sa mort en 1951, il va passer sa vie à dénoncer cet impérialisme. Et la sécession panaméenne sera toujours quelque chose de très important.
J'aimerais aussi, avant d'arriver en 1904, l'extrait que j'ai lu, comme quoi on voit que, en fait, cet extrait, cette citation de Theodore Roosevelt, ce corollaire, il vient en réalité valider ce qui existait déjà, c'est pas le début de quelque chose, c'est la validation presque rhétorique de ce qui se passe sur le terrain depuis déjà plus de 10 ans à vous écouter. Jamais qu'on est au Venezuela.
Oui,
parce
évidemment.
Que le Venezuela joue un rôle majeur, alors là, pour le coup, de lien direct avec le discours de 1904.
Effectivement, en 1902, puisque le Venezuela, alors pour toute une série de questions économiques un peu complexes, criblées de dettes, etc., oui. se retrouve et effectivement hein, sous la menace, alors la double menace européenne et états-unienne,
hein, notamment allemande,
et notamment allemande, mmh. effectivement, d'être bombardé et cède finalement, hein, enfin ou cède, disons,
si, ouais.
Il cède très ouais. concrètement avec toute une série de discours très belliqueux de la part du président vénézuélien de l'époque, refusant évidemment le risque de la vassalisation et du viol de la souveraineté nationale. Et là, on retrouve là encore des choses extrêmement contemporaines. Mais sur le corollaire Roosevelt, ce qui est intéressant après, c'est ce qu'il produit dans, en gros, les 25 ans qui suivent.
Oui.
Puisque c'est la naissance de ce qu'on appelle communément, là encore, hein, c'est un cliché historiographique, mais finalement ça dit ce que ça dit, la politique du big stick, donc du gros bâton. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, les choses se déroulent selon nos intérêts. C'est très bien et on laisse faire. Ça ne se déroule pas selon nos intérêts. On envoie les Marines, on occupe le pays.
Ouais, on disait hein, « speak softly and carry a big stick ». Parlez doucement, mais ayez toujours un bâton dans la main, parce que si ça ne marche pas, ça sera plus facile pour négocier. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que l'idée, ils ne veulent pas intervenir militairement, c'est en dernier recours. Quoi. Il n'y a pas, peut-être pas besoin de le faire. En tout cas, on faut tout faire pour l'éviter. J'aimerais qu'on termine cet épisode avec aussi, aux États-Unis, des voix qui s'opposent à cet impérialisme américain. Mark Twain, par exemple, la Ligue anti-impérialiste, c'est des gens qui s'inquiètent aussi de ça. Il ne faudrait pas qu'on sorte de l'écoute en disant il y a les États-Unis impérialistes et l'Amérique du Sud qui subit. Il y a, de part et d'autre, des gens qui sont dans un camp qu'on n'imagine pas être le leur.
Et il y a des élites latino-américaines voilà. qui s'accommodent extrêmement bien de cette nouvelle présence états-unienne. Alors, ce sont évidemment, alors, le grand classique, ce sont les élites politiques centra-américaines qui, très souvent, hein, ont des intérêts personnels à libérer d'immenses concessions agricole pour la United Fruit ou d'autres compagnies, ça c'est évident, mais il y a aussi dans les opinions naissantes latino-américaines, on est aussi à l'époque du développement de la grande presse de masse en Amérique latine, hein, dans ces trois premières décennies du XXe siècle, on a aussi des formes de fascination pour la modernité américaine, surtout après la Première Guerre mondiale, qui correspond, et ça je voudrais insister dessus, à un véritable tournant, parce que c'est le moment où réellement les États-Unis se substituent à la Grande-Bretagne comme premier partenaire économique, aussi bien commercial que financier, sauf en Argentine. Il n'y a que l'Argentine qui restera encore dominée, je dirais, par la Grande-Bretagne. Et c'est surtout le début d'une américanisation culturelle extrêmement rapide. Par exemple, avant 1914, que voyait-on dans les salles de cinéma à Buenos Aires, à Mexico et à Rio ? On voyait des films français ou des films allemands. À partir de 1919, on ne voit que des films américains. Et ça, ça alimente aussi des représentations des États-Unis qui ne se réduisent absolument pas à la puissance hégémonique et coloniale, mais aussi des représentations de fascination, de prospérité, de modernité. Et c'est évidemment très important de tenir compte de ça. Un historien brésilien a parfaitement résumé ça dans un livre au titre séduisant ou Imperialismo Seductor, l'impérialisme séducteur. C'est-à-dire qu'à la fois il y a une logique hégémonique et à la fois il y a un désir d'Amérique.
Il ne sera pas que séducteur après la Seconde Guerre mondiale, il sera de plus en plus violent, de plus en plus coercitif, ça sera l'objet de notre prochain épisode. États-Unis, Amérique latine, Anatomie d'un impérialisme est un podcast original de France Inter.